الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. Mes chers frères, nous avons vu la dernière fois dans le chapitre concernant la patience, concernant les épreuves qui viennent de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. On avait vu quelques cas, comment Allah azza wa jal récompense une personne qui est éprouvée et qui fait preuve de patience. On a vu l'histoire de cette femme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était atteinte de certaines maladies, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si tu veux, je demande à Allah azza wa jal de t'accorder la santé, et Allah t'accordera la santé. Mais si tu le souhaites, prends ton mal en patience, mais sache que après cette patience, Allah Ta'ala t'accordera à coup sûr le paradis. Et cette femme a dit au prophète d'Allah: dans ce cas, je préfère faire sabab, faire preuve de patience face à cette épreuve, et en sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'accordera le paradis. On a vu à travers ce hadith comment les sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in avaient compris quel était le sens des épreuves, contrairement à nous qui très souvent, lorsque nous avons des difficultés, lorsque nous sommes éprouvés, on a l'impression qu'on est les plus malheureux au monde, qu'on fait le plus pitié dans cette ummah, et que si on a quelques soucis, c'est comme si que c'était une calamité qui s'abattait sur nous. Alors que dans les hadiths qu'on a vus, dans d'autres hadiths qu'on aura l'occasion de voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait bien comprendre que lorsqu'Allah ta'ala veut élever quelqu'un, Allah ta'ala il éprouve, sachant qu'est-ce que l'homme peut avoir de la part d'Allah par le biais des épreuves. Certains tabi'in disaient qu'un homme peut atteindre des degrés, c'est-à-dire des hauts degrés dans sa foi, par des épreuves. Et ce degré-là, jamais il n'aurait pu atteindre par ses actions. Si on devait se fier à nos actions, nos bonnes actions, on n'aurait pas atteint de tels degrés. Mais c'est parfois par des difficultés, par des épreuves, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous élève. Donc le hadith qu'on a cité tout à l'heure, au début, hadith rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, Abu Hurayra, hadith qu'on trouve dans Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique qu'à chaque fois que le musulman éprouve une difficulté, que ce soit une douleur, que ce soit une maladie, que ce soit même une tristesse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit même une épine qui pique le musulman, c'est-à-dire même une toute petite douleur, vous marchez sur quelque chose, un éclat de verre ou alors un caillou qui vous pique le pied, il a dit même ça, illa kaffara Allah biha min khataya, c'est-à-dire que même par ce petite épreuve, cette petite douleur, Allah Ta'ala il pardonne les péchés du musulman. Ce hadith, mes chers frères, c'est une excellente nouvelle pour ceux qui ont iman de leur cœur, parce que ce genre de promesse c'est réservé pour celui qui dans son cœur a la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Quand nous avions vu dans d'autres hadiths auparavant, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait expliqué que ajabun, que vraiment la situation du musulman est exceptionnelle. Tout ce qui arrive au musulman, c'est bien. Il est éprouvé par Allah, il fait preuve de patience, Allah l'élève. Autre cas de figure, Allah Ta'ala le comble de bienfaits, il remercie Allah et ça aussi il est récompensé pour avoir été parmi les reconnaissants. Et le prophète a dit, mais ça c'est que pour le musulman. Parce que celui qui n'a pas iman de son cœur, s'il lui arrive des difficultés de ce dunya, alors ce n'est que des difficultés pour lui. C'est 100% calamité. Il n'obtient rien en compensation de ses douleurs, de ses souffrances. Mais celui qui a iman de son cœur, et comprenons bien qu'on n'a pas fait des études pour avoir iman. On n'a pas fait une demande écrite au préfet pour avoir le iman. On n'a pas fait un effort, on n'a pas passé un examen pour avoir iman. On n'a pas subi des difficultés comme les sahaba, comme Bilal, Ardian, Suhaib, Ar-Rumi, ou autres sahaba pour avoir le iman. Le iman, la foi, on a eu en cadeau. Allah nous l'a donné. Quand on est né sur cette terre, nos parents ont donné azan de nos oreilles et nous on est né, alhamdulillah, ala al-fitra, musulmans. Ou alors, pour ceux qui sont entrés dans l'islam au cours de leur vie, Allah nous a mis la guidée dans leur cœur, mais sans être vraiment éprouvé comme c'était le cas des sahaba avant. Et celui qui a le iman dans son cœur, il lui arrive un problème, c'est du bonus pour lui.
Alors que pour quelqu'un qui n'a pas iman, c'est que du malus. Mais pour quelqu'un qui a la foi, tout ce qui lui arrive de la part d'Allah, c'est que du bonus pour cette personne. Et Ibn Uthaymin dit que ça fait partie des ni'mat de la part d'Allah, des bienfaits de la part d'Allah pour le musulman. Alors que nous, on voit ça comme une calamité. Le docteur m'a dit, j'ai tel problème. Voilà, j'ai douleur là depuis quelque temps, j'ai tel problème. Voilà, j'ai problème avec ma femme, problème d'argent, problème tel souci. Moi, je vois ça comme une calamité. C'est pour ça qu'Allah a dit le Coran pour d'autres choses, mais c'est une règle générale. Asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Et avant de dire asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum, asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Parfois, on veut quelque chose, mais c'est pas bon pour nous. Parfois, on ne veut pas ça. Aïe, aïe, on ne veut pas ça. Mais ça nous arrive. On voit que c'est mal, mais Allah, il voit qu'il y a un bien pour nous dans cette chose. C'est exactement le cas pour les difficultés. Et même, et ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas, il arrive parfois que quelqu'un il se réveille le matin, hein, il est mélancolique, il est triste. On ne sait pas pourquoi on est triste. Ça arrive à tout le monde. Même si on n'est pas besoin d'être amoureux, pas besoin d'avoir tel souci, hein, ça arrive parfois, on ne sait pas, comme en français on dit, hein, on n'a pas la pêche. Ou alors il n'y a pas le moral. Il n'y a pas le moral, on est triste. Ça arrive. Mais ça aussi, Abu Bakr avait dans le croissant au prophète d'Allah en ce sens, hein, à propos de la tristesse. Et le prophète avait dit, c'est lui même la tristesse. Même une tristesse, quand parfois on voit ça comme inexpliqué, ça aussi, ça fait partie des petites épreuves qu'Allah il envoie dans le même but que, d'une manière générale, la règle qui coordonne toutes les épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie. Et en commentaire, il dit également que l'être humain, le musulman, doit comprendre que personne dans ce monde ne peut vivre heureux tout le temps. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on ait un bon travail, qu'on soit le ministre, qu'on soit le président, qu'on soit le roi, ou qu'on soit à la NPE, il n'existe pas un être humain qui pourra dire « je suis heureux » depuis 1er janvier jusqu'à 31 décembre. Ça, c'est impossible. Et même si quelqu'un a toutes les conditions pour être heureux, il est riche, il a de l'argent, il a la maison, il a tout, même ça, nous, de l'extérieur, on voit cette personne que c'est l'homme le plus heureux, mais il n'y a pas de joie permanente sur ce dunya. Parce que même quand quelqu'un il vit dans tout le confort possible, à un moment donné, le cœur se lasse de tous ses conforts. Et c'est là la grande différence entre les bienfaits, les jouissances de ce monde et les jouissances du paradis. C'est pour ça que les philosophes, hein, ceux qui sont en terminale, ils étudient la philosophie, il y a des philosophes qui disent que le concept du paradis ne peut pas exister. Pourquoi ? Parce que l'être humain s'habitue à toutes les situations difficiles comme les situations de bonheur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser qu'on vit éternellement de le bonheur en parlant du paradis. Parce qu'à un moment donné, on finit par s'en lasser. Oui, on se lasse, mais ça, c'est les règles du bonheur de ce monde. Un milliardaire qui vit dans un château, qui a tout, qui a je sais combien de voitures, de luxe, etc., il a tout. Hein? Au bout de combien de temps, il va se lasser? Au bout de quelques temps. C'est un exemple qu'on a donné aux élèves. Même si quelqu'un est très riche, tous les jours, il va manger de bons repas. Il va manger langouste, il va manger camarons, il va manger des poissons frais, il va manger vraiment, alhamdoulilah, des mets que nous, on n'a pas la possibilité de manger tout le temps. Mais au bout d'un certain temps, il va se lasser également. Si tous les jours on mange un curry langouste, ça c'est bon ça langouste. Tous les jours on mange, lundi, content, mardi, encore, alhamdoulilah, mercredi, oui. Au bout de 10 jours, vous êtes malade, vous allez avoir des boutons partout. Hein, vous avez fait des allergies. C'est-à-dire que dans ce dunya, il n'y a rien, il n'y a pas de bonheur qui perdure. Même si les conditions du bonheur sont présentes, le véritable bonheur, la quiétude, c'est dans le delà. Et s'il y a bien une quiétude permanente dans le dunya, c'est la foi qu'Allah met dans le cœur, la quiétude qu'il y a par nous avec la foi. La joie qu'un musulman éprouve, la tranquillité qu'on a dans notre cœur, quand on a la foi en Allah complet. Je crois au destin complet comme Allah me le demande. Ce que j'ai dans mon cœur comme tranquillité, le milliardaire, il ne peut pas avoir un poisson. Parce que lui, il vit dans la peur. Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Je vais perdre mon argent, on va m'attaquer, il va m'arriver quelque chose, etc. Mais moi, dans mon cœur, même si j'ai rien, je sais que tout est dans les mains d'Allah. J'ai le iman sur Al-Qadha ou Al-Qadr, ce qui fait que la joie que moi, musulman, j'ai dans mon cœur, celui qui n'a pas iman, il ne peut même pas imaginer. Ce que le musulman, il ressent dans son cœur, lorsqu'il fait un sijda, le kafir ne pourra même pas l'imaginer. Et parfois, les épreuves peuvent toucher la famille, la santé, le travail ou autre chose. Il faut savoir que toutes les épreuves qui peuvent toucher un musulman, les anbiya, les prophètes, alayhimu salatu wassalam, ils l'ont tous vécu. Connaît l'homme le plus malade sur cette terre de la création d'Allah, c'était qui? C'était Hazrat Ayyub alayhi salam. Personne dans ce dunya n'a été plus malade que Ayyub alayhi salam. Également, concernant les problèmes avec la famille, regarde Ibrahim a.s. Son père, c'est lui qui fabrique les idoles, et il n'a même pas le droit de demander pardon et istighfar pour son père, c'est son propre papa. D'accord? Regardez l'exemple de Nuh a.s., hein, son propre fils, il n'accepte pas son da'wah, il voit son fils qui va sur la montagne et qui va mourir. Il ne peut rien faire pour son fils. Il y a dans tous les domaines des épreuves, les Anbiya alayhi salatu wassalam, ils ont été plus éprouvés que nous. Lut alayhi salam, éprouvé par sa femme, etc. etc. Également, autre point, lorsque il nous arrive une difficulté, parfois c'est une toute petite difficulté, comme on a vu tout à l'heure, une épine qui vous pique. Ou alors, dans d'autres hadiths, on parle Souda'ul mu'min. Lorsqu'un musulman, il a mal à la tête. Quand on a mal à la tête, qu'est-ce qu'on fait, nous? On prend de l'iprane. Mais on prend un feralgan et puis c'est fini. Mais pour nous, c'est fini. Mais pour les malaïkas, c'est pas fini. Si un musulman est éprouvé par une douleur quelconque, ils écrivent ça. Parce que ça, c'est considéré comme épreuve. Et par l'intermédiaire, par le biais de la douleur, de la difficulté, Allah, Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il fait? On l'a déjà vu. Allah, il efface une partie des péchés de ce musulman. Ce qui fait que, qui sait qui peut se souvenir d'un mal de tête qu'il a eu il y a 15 ans, il y a 20 ans? Ça, on ne se souvient même pas. Si quelqu'un était à l'hôpital 10 jours, là, il se souvient. Toute sa vie, il va se souvenir. Mais une petite grippe ou une petite migraine ou autre chose, personne ne s'en souvient. Mais les malaïkas, eux, ils l'ont écrit. Et le jour de Qiyama, le musulman, il voit de ses propres yeux comment Allah le récompense pour ses difficultés. Et ça, mes chers frères, c'est la justice. C'est le adl, la justice d'Allah. Qu'on connaît qu'un petit péché, les anges n'oublient pas, et que l'homme il va voir tous ses péchés le jour de Qiyamah, ben pareil, une épreuve ou une petite action qu'on a fait qui est bonne, les anges là aussi ils écrivent. Et le jour de Qiyamah, cela sera dans notre balance, dans les bonnes actions. Oui. Puis, cher, il dit que lorsqu'une personne, un musulman est éprouvé, il y a deux cas de figure. Il y a le cas du musulman qui a la science, qui a le ilm, c'est-à-dire pas le ilm, pas obligé d'être mufti, mais dire que il comprend quel est le sens des épreuves. Il y a tous les hadiths qu'on essaie d'expliquer depuis quelque temps. Si le musulman, lorsqu'il est éprouvé par Allah, il fait preuve de patience, il ne se plaint pas. Et deuxièmement, il fait ce qu'on avait expliqué il y a quelques mois, al-ihtisab. Il se dit que si Allah m'éprouve, Allah va me récompenser. Donc, chaque seconde que je passe dans la difficulté, je le fais pour Allah. Et je sais qu'Allah va me donner quelque chose. C'est ce qu'on appelle al-ihtisab. Dans ce cas, il y a deux choses qui se produisent. Première chose, Allah, il pardonne les péchés de cette personne. Et deuxièmement, wa ziyadatul hasanat, Allah Ta'ala, il accorde des récompenses pour sa patience. Deuxième cas de figure, le musulman, il est éprouvé, mais il n'a pas le réflexe ou la science ou le iman assez fort pour se dire que si je fais preuve de patience, Allah m'accordera telle ou telle chose. Mais il prend son mal en patience. Sa condition, c'est de ne pas se plaindre, de ne pas les crier, de ne pas dire que je suis opprimé, ou j'ai, etc. Il prend son mal en patience, mais il n'a pas le degré du musulman qui se dit que ça, ça vient d'Allah, Allah il va me donner le paradis, Allah il va m'élever, juste il supporte. Le fait de supporter déjà, c'est takfir ou sayyi'at. Allah il pardonne les péchés de ce musulman parce qu'il fait preuve de patience et qu'il est en train de souffrir. Soit ça, cher, il dit que dans les malheurs, dans les moments de difficulté, le musulman intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit toujours que Allah il est en train de m'éprouver. Allah il attend quelque chose pour moi. Allah il va me donner quelque chose à travers cette épreuve. Et si vous pensez comme ça, vous aurez des récompenses pour chaque seconde qui est passée dans ces difficultés. Et cher, il dit également que dans toutes les situations de la vie, le musulman doit comprendre que tout ce que je fais c'est pour Allah. Et tout ce qui m'arrive, je sais que ça vient de la part d'Allah. Il dit même quand une personne il va courant, il va carrefour, il va faire ses courses. Voilà, un musulman, il paye son loyer. Il paye sa facture d'eau, sa facture d'électricité. Il doit se dire que je fais ça pour Allah. Parce que je suis responsable de ma femme. Je suis responsable de mes enfants. C'est mon devoir envers eux. Je fais ça pour obéir à mon devoir qu'Allah, l'engagement que j'ai pris avec Allah en me mariant avec telle personne. Si on fait ce niyat que je donne à manger à ma famille, j'achète des choses et je sais qu'Allah me récompensera, parce que je suis en train de faire mes devoirs, mon devoir envers Allah, chaque euro que vous allez dépenser, ce sera considéré comme sadaqa. Mais le plus important, c'est quoi? C'est de réfléchir. C'est pas que je paye 150 euros Kora et que je jure, tiens, ah, la vie a augmenté, l'inflation, ben, elle n'a pas baissé le prix, cause pas alimenter, etc., etc. C'est pas ça, il faut dire. C'est-à-dire que, ah, c'est cher, mais ça, c'est, je fais ça pour Allah. Parce que je suis papa. ça c'est mes enfants qui vont manger, ça c'est créature d'Allah, je suis responsable d'eux, c'est mon devoir, je fais ça pour Allah. Alors chaque euro que vous avez dépensé, mes chers frères, c'est sadaqa. Et ça, ça englobe le sens de « قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » Tout ce que je fais, c'est pour Allah. Ma vie, c'est pour Allah. Le musulman, il vit uniquement pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Je ne vous fais pas d'une expérience. Moi, j'ai eu un problème de santé, moi-même. Je me suis fait une opération, là, dans la bouche. La douleur que j'ai eue, je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Il n'y a que quand on dit pleurer de douleur, moi, j'ai pleuré tellement j'avais mal. Attrape la tête quand on vous coupe la bouche comme ça. Mais je me suis dit tout de suite, on ne va pas laisser ça passer comme ça. On ne va pas laisser la douleur prendre une journée ou deux, et puis j'ai juste mal. Non, j'ai essayé. Allah accepte maintenant que je me dis que ça, c'est une épreuve de la part d'Allah. Ça fait très mal, le médicament, il ne soulage pas rien, mais chaque seconde passée de la douleur, Allah élève le grade. Allah pardonne les péchés. Et un musulman, il doit essayer, même si on n'arrivera pas comme les sahabas, mais on doit essayer d'arriver à ce degré que quand j'ai une difficulté, je me dis que Allah il m'éprouve et je fais preuve de patience. Oh Allah, je vais réussir cette épreuve. Et Inch'Allah, Allah Ta'ala nous accordera les mêmes récompenses qu'il accordait aux sahaba quand ils étaient éprouvés. Pourquoi pas? Parce que c'est le même Allah, c'est le même Coran, le même hadith, les mêmes promesses. Et donc si je fais comme les sahaba, je prends mon mal en patience comme cette femme, je patiente parce qu'Allah il me donnera le paradis avec cette difficulté, mais Allah il nous donnera le paradis avec cette difficulté. Mais j'ai fait vraiment Allah, qu'Allah ait pitié de nous. Franchement, si Allah n'a pas pitié de nous, de ce dunya, on n'arrivera à rien. Si je me dis que je suis alim, mufti, fundi, n'importe quoi, ça c'est rien ça, mes chers frères. Parce que mes actions ne ressembleront jamais aux actions des sahabas. Même pas un poisson. Je ne peux pas rêver d'être à côté des sahabas dans le jannat. Vraiment, si ce n'est pas Allah qui a pitié de moi, si ce n'est pas Allah qui a pitié de nous, il ne pardonne pas nos péchés, aime nos bonnes actions, ça ne vaut rien. Est-ce que je peux comparer mon salat al-Isha en tant qu'imam avec Abu Bakr al-Siddiq lorsqu'il officiait la salat? Na'oud billah. C'est rien, on ne compare pas. Mais c'est le même rakat, même salat. Mais imam, c'est 0,1%. Allah a pitié de nous. Bas. Si Allah a pitié de nous, ben on a réussi. Et comment est-ce que je dois faire pour qu'Allah ait pitié de nous? Dans un hadith, on sent un peu du sujet, mais ça, c'est des leçons pour notre vie. Ar-Rahama ou Yarhamuhum ar-Rahman. Irhamu man fil ard, Irhamukum man fil sama. Il faut avoir le cœur ouvert. Il faut être gentil avec nos prochains. Le prophète m'a dit que ceux qui font preuve de bonté, ceux qui sont gentils, ils font preuve de pitié envers les gens, ils pardonnent, ils passent sur les erreurs, et ils agissent bien avec leurs prochains, ces gens-là, Allah Ta'ala aura pitié d'eux. Et le prophète m'a dit, ayez pitié des gens de ce monde, c'est-à-dire avec vos prochains, madames, enfants, vos frères, vos soeurs, la famille, vos collègues, vos voisins, soyez faites preuve de compassion avec eux. Ayez pitié pour eux, et ceux qui sont dans les cieux auront pitié pour vous. Ça, c'est la recette pour qu'un jour, le jour de Qiyamah, Allah Ta'ala ait pitié de nous. Taïb ? Combien de minutes ? Ça fait 20 minutes ? 18 minutes. Encore 2 minutes, Inch'Allah. Et puis ce hadith hein, qu'on avait dit tout à l'heure, qu'on comprenne bien, « Man yuridillahu bi khayran yusub minhu » Ce hadith de Bukhari dit que lorsqu'Allah Ta'ala veut du bien pour quelqu'un, Allah, il éprouve. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire qu'on voit quelqu'un qui est malade ou autre chose, Allah t'a une puniali. Non, Allah pas t'a une puniali. Ça, c'est les ignorants qui disent ça. Quand ils voient quelqu'un à l'hôpital, il est beau même. Il est en train de payer, il est en train de goûter. Il ne faut pas dire ça. De un, vous ne savez pas qu'est-ce qui vous arrive vous-même avant de mourir. Une personne qui se moque des épreuves de son prochain, il ne connaît pas que ça peut le toucher. Ou ça peut toucher ce qu'il a de plus cher pour lui, son propre fils. Son propre enfant qui est ma'soum, qui est innocent. Allah, il peut éprouver cet enfant parce qu'on s'est moqué de l'épreuve d'une personne. Bien au contraire. Quand on voit un musulman qui, avant de mourir, il a des difficultés ou il est malade, ça c'est une bonne nouvelle ça. Il y a qu'Allah Ta'ala, il veut que lorsque mon serviteur, il retourne vers moi, son livret de compte est à zéro, ses péchés sont lavés. Il y avait l'histoire une fois, une femme à l'époque, je crois, sallam, elle avait commis l'adultère. Hadith très connu ça. Et vraiment au prophète d'Allah, j'ai fait cette erreur au prophète d'Allah, tahirni, ya Rasulallah tahirni, applique la sentence pour que je paie ma faute de ce dunya. Et que le jour de Qiyamah, je n'ai plus rien à payer. Le prophète avait pitié de cette femme. Il dit que non, là tu attends un enfant. Quand tu auras ton enfant, tu reviens. Elle revient. Le prophète avait l'espoir que cette femme ne revienne plus. Il demande tawba à Allah et puis c'est fini, elle ne revienne plus. C'est pour ça que le prophète dit reviens après. Guess au bébé, il vient le prophète d'Allah. Mon enfant est né. Maintenant je vais être purifié sur ce dunya. Le prophète réfléchit. Il ne veut pas que cette femme subisse le châtiment. Il dit que non, ton enfant a encore besoin de toi. Et tu allaites ton enfant. Lorsque ton enfant sera autonome, il mange tout seul, là tu reviens. Dans l'espoir qu'elle ne revienne plus. Allah va pardonner, inshallah. Elle revient et elle veut subir le châtiment. Pourquoi? Mais c'est quoi ce iman là? Ce iman c'est quoi? C'est que cette femme elle sait que dans ce dunya il y a souffrance. Mais souffrance du akhirat, ça c'est autre chose. Si je rencontre Allah avec des péchés, ça c'est une calamité. Quand je me présente devant le tribunal d'Allah, quand Allah Ta'ala va appeler chaque personne par son nom et le nom de son père, chaque personne y viendra devant le tribunal d'Allah. Si je me présente avec des péchés et qu'Allah il commence à poser des questions sur les péchés, mes chers frères, ça c'est une catastrophe. On a dit, maintenant qu'il cherche hisab ou faqad uzib, celui à qui Allah il pose des questions sur ses actions, sur ses péchés, comprenez, ça c'est déjà un azab. Parce que lorsqu'on est devant Allah, on ne peut rien dire, on ne peut rien répondre. On a juste à accepter nos erreurs et là il n'y a plus de maghfirat. On n'a plus à demander tawbah, il n'y a plus de istighfar, parce que ce qui est dans les livres de compte, c'est ça même qu'on aura. Qu'Allah nous protège. Donc, si Allah éprouve quelqu'un, ça c'est une bonne nouvelle. C'est pour que cette personne voit ses péchés effacés et son grade augmenté et des hasanats qui sont inscrits dans son livre de compte. Ah bah. Et puis il y avait un deuxième hadith, hein, on peut le faire en deux minutes. Le prophète m'a dit, le hadith a été un peu long, ça on va laisser pour la prochaine fois. Et il faut savoir que Allah n'éprouve, et ça on va voir la prochaine fois, jamais Allah n'éprouve une personne par quelque chose qu'il ne peut pas supporter. Lorsqu'Allah éprouve quelqu'un, Allah éprouve les gens en fonction de leur iman. Le hadith prophète m'a dit, « Ashadu an-nas bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal. » Hein, les gens les plus éprouvés par Allah, c'était les prophètes. On a vu tout à l'heure, les prophètes avaient les plus de difficultés. Ensuite, ceux qui sont les plus proches. فَيُبْتَلَ الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ الصَّلَاةَ بَزِيدَ فِي بَلَائِهِ. Et l'homme est éprouvé en fonction de son iman. Plus la foi est forte dans le cœur, plus les épreuves sont difficiles. Et Allah, il n'éprouve jamais, comme on a dit, une personne plus que ce qu'elle peut supporter. C'est pour ça que la prochaine fois, on va voir que les épreuves sont en fonction du iman de la personne. On va voir, inshallah, un deuxième hadith, que le prophète a interdit à un musulman de souhaiter la mort. Jamais. Il y a des gens, parfois, ils ont des problèmes, ils disent, ah, vaut mieux Allah, il prend en moi. Vaut même il mort, vaut même il crève, il finit. Ça, c'est des paroles de jahil, ça. Ça, c'est des paroles d'ignorants. On ne sait pas c'est quoi la mort. Quelqu'un, il peut souffrir 1000 souffrances de ce dunya, ça n'équivaut pas à une seconde du sakarat, une seconde de l'agonie, lorsque le malik al-maut reprend le ruh, arrache l'âme dans le corps de la personne, ça c'est une douleur qu'aucune créature ne peut imaginer. Et puis ce qu'il y a sous la tombe, ça n'a rien à voir avec ce dunya. Au contraire, chaque seconde dans le dunya, c'est une seconde qu'Allah nous donne. C'est une chance pour se rattraper. Chaque jour qui passe, c'est un jour où on peut encore retourner vers Allah. Même si j'ai fait beaucoup de péchés, même si j'ai 40 ans, 40 ans je fais des bêtises. Mais s'il me reste un jour à vivre, possible qu'avec un jour Allah me pardonne. Je retourne vers Allah avec sincérité et qu'Allah peut tout pardonner. Mes chers frères, qu'Allah nous donne tawfiq de comprendre ses paroles et qu'Allah nous donne ce qu'on appelle la compréhension du qadar, nous donne la compréhension de l'importance du temps. Chaque jour qui passe, aujourd'hui c'est lundi, regardez comment les semaines s'enchaînent, les mois s'enchaînent. Bientôt l'année 2009 finit, 2010 commence. Dans quelques mois, vous soufflez, on est Rajab. Sha'ban, Ramadan, on recommence Tarawih, Somme, etc., etc. Et les années s'enchaînent. Mais chaque jour qui passe, c'est un cadeau pour que le musulman il puisse se rapprocher d'Allah. Qu'on ne perde pas notre temps, mes chers frères, dans les choses futiles, dans les péchés. Parce que chaque jour qui passe, c'est un jour qui soit me rapproche du paradis, soit me rapproche de l'enfer. Qu'Allah nous accepte, mes chers frères, et qu'Allah ait pitié de nous. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Et puis, alhamdoulilah, il y a eu le EADJ il y a deux semaines qui s'est déroulé à Saint-Pierre avec une présence de 500 voire 600 jeunes. Vraiment, ça c'était quelque chose d'exceptionnel. Vous voyez des jeunes de toutes les villes de la Réunion, alhamdoulilah, qui viennent uniquement pour consolider leur iman, pour écouter les paroles de Dean. Le dernier jour, on avait fait un entraînement de salat pour que chaque jeune il voit bien comment on perfectionne le ruku, le sujda, pour qu'on fasse namaz correctement. Mais ça, c'était un spectacle, il est magnifique ça. Vous voyez, 500 jeunes entre 15 et 25 ans, hein, ils sont en train de faire sujda correctement, apprendre comment faire ruku. Ça prouve, mes chers frères, que ce Dean-là, ça, c'est quelque chose d'unique, ça. Dans aucune religion, dans aucun courant politique, dans aucune philosophie, dans aucune idéologie, on ne trouvera autant de gens dont les cœurs sont attachés à ça. Ça, c'est din d'Allah, et Allah a promis que ce din perdurera jusqu'au Qiyamah. Même si les gens disent ce qu'ils veulent de la religion, même s'il y a tous les attirances, tous les fitnas, mais quand Allah décide de mettre la religion, le iman dans le cœur de quelqu'un, ça, c'est quelque chose de magique que personne ne peut comprendre. Et la joie le plaisir que nous avons avec le iman, ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Qu'Allah nous fasse ressentir la douceur, le halawatul iman. Et dans la continuité, ce dimanche-là, le 15 novembre, ça c'est une première à la Réunion. En fait, doit qu'Allah facilite. On a commencé quelque chose, c'est une première, mais à petite échelle. Il y a le EADJ pour les filles maintenant. Mais pour les filles, on ne peut pas faire laisser deux jours quelque part pour dormir et tout. C'est trop compliqué. On va faire sur une journée. Il y a un centre, une colonie de vacances qui nous a été prêté, alhamdoulilah. Il y a 250 filles de toute la Réunion. Par exemple, juste pour Saint-Clotilde. Saint-Clotilde, il y a eu 10. Moufia, 10. Centre-ville, 20, etc., etc. Dans chaque ville, on prend un petit peu. Et il y aura 250 filles de toute la Réunion. Ils vont se réunir donc dans un endroit pour une journée. Le matin, il y aura des programmes sur la religion. Et l'après-midi, des activités, des sports. C'est que entre femmes, ça. Donc, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas de monsieur, il n'y a pas de moulissa, il n'y a rien qui rentre dedans. Ça permettra aux jeunes filles aussi de se rencontrer et faire mohabbat. Les générations se croisent également. Alhamdulillah, ce EADJ, on a eu un intervenant de haut niveau qui est venu de métropole. Cheikh Hassan, c'est quelqu'un qui donne des conférences dans les universités en France depuis 25 ans. C'est l'équivalent de nos doyens, ou je ne sais pas comment on appelle ça, à la fac, d'accord. C'est quelqu'un d'un niveau extraordinaire. Alhamdulillah, on a eu cette chance. Et pour le EADJ des filles, il y a une surprise de taille. C'est une femme aussi qui va venir de France. C'est quelqu'un qui écrit des livres sur la religion. En plus, elle est spécialiste en psychologie, en sociologie plutôt, d'accord. Elle écrit des livres en français. Ses livres sont traduits en arabe, vendus dans tous les pays. Ça, c'est vraiment quelque chose, une chance que nous pouvons accueillir ce genre de personnes. Et ce sera l'occasion pour nos sœurs, pour nos cousines, nos nièces, ceux qui sont jusqu'à 25 ans, auront l'occasion de parler avec quelqu'un de ce niveau et d'échanger, qui va répondre à toutes leurs questions. Qu'Allah accepte ce programme qu'on va mettre en place. Et nous demandons à Allah de donner la hidayat à nos mères, à nos sœurs, à nos frères, à nos enfants et à nous-mêmes. Et qu'Allah nous garde à la foi. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Alhamdulillah, rabbil alamin.